Bonjour et bienvenue sur Secrets Judoka, le podcast 100% judo pour ceux qui ont envie de progresser et qui aiment partager. Je suis Pascaline Magne, passionnée de judo et je fais mon maximum pour appliquer un principe cher à Jigoro Kano, l'utilisation optimale de mon énergie. Comment s'entraîner pour que ce soit efficace? Quelle méthode, quelle approche, quel exercice permettent d'avoir des résultats plus rapidement, voire peut-être plus facilement? J'observe tout ce que je peux pour trouver des réponses et surtout, je pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, c'est une interview. J'ai tendu mon micro à une personne qui a beaucoup de choses à partager.
So thank you very much, Nikki, for your time.
Merci beaucoup, Nikki, pour ton temps sur ce dernier jour, non pas du Kangeko, mais de ton Kangeko à toi. Peux-tu me raconter un peu de ton histoire, comment tu as commencé, pourquoi, et c'est quoi ton lien avec le judo?
What is your link with judo?
Sure. I'm Nikki, I'm from Hong Kong. So I started when I was 6
Je m'appelle Nikki, je suis de Hong Kong. J'ai commencé le judo à 6 ans et j'ai commencé parce que le voisin voulait en faire mais pas tout seul. Donc nous y sommes allés ensemble.
So we went together and we live in a police
On habitait dans un quartier de policiers, donc tout le monde était policier, nous étions tous des enfants de policiers et on est allé là où les policiers s'entraînaient. C'était plus un loisir, juste une fois par semaine. On s'y retrouvait et on jouait aussi.
It was once a week when you were little.
Yeah. So it's different than like some countries like Japan where if you start.
C'est différent. Dans certains pays, comme au Japon, tu commences le judo à 6 ans et tu t'entraînes 6 jours par semaine pendant une heure et demie, comme les enfants du Kodokan. Nous, c'était différent, c'était un loisir. Tu allais au cours pour voir tes amis et c'est tout. Et comment tu es arrivé jusqu'à ton judo d'aujourd'hui? Est-ce que tu en as fait plus quand tu étais plus âgé? Tu es professeur, il me semble. Oui, je suis dans la quarantaine maintenant et j'ai fait du judo dans différents pays. J'ai été à Singapour pour le secondaire et j'ai continué le judo, cette fois-ci dans l'équipe de l'école. Je m'entraînais alors 3 fois par semaine, je combattais pour l'école. Ce n'était pas si difficile, mais ce n'était pas facile non plus, ils étaient sérieux sur le sujet. Après ça, j'ai arrêté 15 ans. C'est pourquoi lorsque j'entends des gens me dire qu'ils ont arrêté 10 ans et que ça les effraie de reprendre, je leur dis « Oh non, ils peuvent reprendre sans problème.
Mm-hmm. »
J'ai donc arrêté dans les meilleures années, dans la vingtaine. Et dans la trentaine, j'ai recommencé aux États-Unis, j'y suis allée pour les études. Après, ça a été 10 ans de salarié, de vie normale, quoi. Et puis je suis retournée à Hong Kong. Et là, j'ai rejoint l'équipe nationale et j'ai fait de la compétition au niveau international. Oui. Mais j'ai pris ma retraite maintenant. En fait, j'ai été sélectionnée grâce aux compétitions nationales. Bien sûr, le niveau n'est pas très haut à Hong Kong, donc j'avais cette chance. Ce n'est probablement pas possible en Europe, par exemple, de faire ça à 35 ans. Mais ne dis jamais jamais, parce qu'il y a toujours des cas où tu peux le faire. Pour moi, c'est tout dans ta tête. Mais il faut être réaliste, faire les Jeux Olympiques, c'est impossible. Mais pour atteindre quelque chose, c'est possible pour tout le monde. Oui, tu es vraiment un exemple de ça. À cette époque, en équipe nationale de Hong Kong, tu t'entraînais tous les jours? On s'entraînait, certains athlètes de l'équipe y étaient à temps plein et s'entraînaient donc tous les jours. Moi, je devais travailler, donc je m'entraînais 3-4 fois par semaine et bien sûr, en dehors, j'allais à la salle, je courais pour moi-même, etc.
And then you supplement it with your, you know, outside work with, you know, you go to gym, you run on your own, that sort of things.
Yeah. And then at the end, so how did you?
Et donc comment t'as connu le Japon? T'as eu l'idée de venir t'entraîner ici?
Was it at that time or was it after that?
Oh, that's pretty interesting, actually.
Ah, c'est intéressant. En fait, quand j'étais enfant, mon club a organisé un séjour judo au Japon pour le plaisir.
For fun, so we were just hobby, right? So the sensei.
Notre professeur a donc pris tous ses enfants de 10 à 20 ans et on a fait une semaine d'entraînement au Kodokan. On a vraiment aimé ça et même si je ne sais pas trop si les gens se souviennent de tout, c'était une belle expérience. Et de nombreuses années plus tard, j'ai décidé de revenir pour un stage qu'on appelait séminaire. Mais je suis asiatique, n'est-ce pas? Donc j'ai cette culture de ne pas faire du sport un métier. On ne peut pas vivre du sport. On ne peut pas faire carrière.
Well, in Hong Kong, yeah. If you can, please choose study and
à Hong Kong, en tout cas, on pense à faire des études, finir ses études, trouver un bon poste, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée aux États-Unis, j'ai été diplômée en sciences de l'informatique, et j'ai travaillé dans une banque, et j'ai travaillé pour gagner de l'argent, c'est ça. C'est la trajectoire normale. Mais après 15 ans, j'avais encore cette envie d'essayer ça, alors je suis rentrée à Hong Kong et j'ai essayé. C'est intéressant parce que tu connais les deux aspects, apprendre et faire du judo sans la compétition, comme quand tu étais jeune ou encore aujourd'hui. Mais tu connais aussi l'entraînement pour les compétiteurs. Parfois, certaines personnes disent qu'il y a quasiment deux judos, celui pour la compétition et celui sans compétition, et qu'il y a deux façons de s'entraîner aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dirais-tu que c'est la même chose? Parce que, par exemple, c'est pourquoi je pose cette question, quand tu ne fais pas de compétition, tu as vraiment le temps de bien apprendre les bases et différentes techniques. Mais si tu veux performer en compétition, c'est plutôt recommandé de te concentrer sur une technique en particulier et ne pas t'éparpiller. Alors, est-ce que tu penses que c'est un judo différent, des entraînements différents? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que ce ne sont pas des entraînements différents, mais tu dois quand même cibler ton public et t'adapter en quelque sorte. Comment dire ? Si tu es un compétiteur de très haut niveau, tu ne peux pas te contenter d'une seule technique. Peut-être que quand tu regardes une compétition, seule une technique fonctionne et est utilisée, mais dans ta poche, tu devrais avoir plus que ça, n'est-ce pas? Donc dans un sens, tu dois te préparer à travailler plus que cette technique favorite si tu veux être vraiment très très bon. Surtout aujourd'hui où toutes les infos sont disponibles et tout le monde peut savoir ce que tu vas faire, et tôt ou tard tu vas rencontrer quelqu'un de vraiment fort face à toi et il saura tout de ta technique favorite et ça ne va plus marcher. Donc j'ai pu constater que les judokas qui sont vraiment super motivés, ils font comme de la recherche, même s'ils sont au sommet, les meilleurs judokas, déjà champions du monde, ils ne s'arrêtent jamais et ils vont trouver des trucs qu'ils vont travailler et ajouter à leur arsenal, dans leur poche. Donc en ce sens-là, je pense que c'est le même judo, que tu le fasses à haut niveau comme à loisir. Tu dois avoir cet esprit curieux, l'envie d'apprendre une nouvelle technique. Et les bases doivent être bonnes pour les deux types de pratiques, que tu sois compétiteur à haut niveau ou juste débutant. Les bases sont si importantes que lorsque tu arrives à un niveau intermédiaire, si tu as de mauvaises fondations, cela va te bloquer pour pouvoir vraiment progresser. Tu pourras atteindre un certain niveau, mais tu seras stoppé, tu atteindras comme un plafond. Tu as vraiment besoin de bonnes bases pour atteindre un bon niveau plus tard. Ce n'est donc pas deux judo, c'est plutôt une question de pourcentage sur lequel se concentrer qui va dépendre de tes objectifs. Si ton objectif c'est de t'amuser, peut-être que ton entraînement sera plutôt avec des exercices sympas plutôt que des exercices très difficiles. Maintenant, si mon objectif est de me préparer pour un grand slam dans un mois, là évidemment, tu n'as peut-être pas le temps pour la partie sympa. Tu vas devoir travailler beaucoup de situations différentes, de kumikata. Et en ce sens, oui, des éléments spécifiques vont changer, je pense. Mais au final, je pense que le travail judo, c'est le même. Je fais aussi de la compétition de kata maintenant, et la plupart des gens pensent que le kata est juste pour l'examen de la ceinture noire, donc ils se disent qu'ils vont regarder les vidéos, faire la démonstration, et c'est fini. Et est-ce que les médaillés olympiques devraient faire les katas? Je pense qu'ils devraient essayer, mais pas travailler vraiment ces katas, car ce n'est pas leur objectif. Mais juste montrer la forme du kata et vraiment le comprendre, ce n'est pas le même niveau. Donc dans un certain sens, si quelqu'un est intéressé pour essayer, il va comme s'ouvrir à un nouveau monde et en quelque sorte, ça pose la question de si tu comprends l'essence des principes du judo, ce qui est utile pour les gens de tous les niveaux. Et plus tard, certaines de ces personnes vont aller vers l'enseignement et ça leur sera utile. Parce qu'être un champion et être capable d'enseigner, c'est aussi deux choses différentes, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu t'entraînes pour devenir un bon enseignant ou bien pour devenir un champion? C'est la même question. Tu as parlé de sujets que je voulais aborder, justement. L'un d'eux, c'est que les fondations sont importantes.
Quelles fondations sont d'après toi les plus importantes à travailler quand on commence ou bien même tout au long de sa vie de judoka? Est-ce que ce sont les déplacements, placement de pied, kumikata, qualité des techniques de base? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Au départ, copier la forme de la technique, les étapes 1, 2, 3, c'est important, c'est même la base de l'apprentissage.
But while you're learning it, some people will learn better by understanding the principle behind it.
Mais certaines personnes apprennent mieux quand elles comprennent les principes derrière ça. Sûrement pas les enfants, parce que les enfants, c'est plus leur montrer ou mettre leurs bras et leurs pieds et faire qu'ils s'en rappellent. Mais pour les adultes, certains apprennent en faisant, en ressentant, et d'autres apprennent plus en analysant les informations dans leur tête. Donc pour être capable de transmettre pourquoi tu mets ton bras comme ça, quand c'est le moment de tourner et pourquoi tu ne mets pas ton épaule comme ça, toutes ces bases-là, si tu ne fais que copier, je pense que c'est facile d'avoir une mauvaise copie en fait. Et quand tu commences à mal copier, c'est en fait très difficile de corriger. Normalement, tu apprends une technique, tu deviens meilleur et ensuite tu veux la faire en randori. Et là, quand tu commences à combattre, tu veux vraiment projeter, c'est normal. Et donc, tu commences à mettre de la puissance. Et la plupart des adultes ont de la force. Mais une fois que tu as commencé à mettre de la force, c'est très difficile de se défaire de ces mauvaises habitudes. Tu te dis que tu veux y arriver, mais tu ne peux pas parce que tu mets de la force qui te bloque toi-même. Donc avant que ça n'arrive, tu dois développer de bonnes habitudes et c'est beaucoup plus facile. Je peux le dire parce que j'ai beaucoup de mauvaises habitudes. N'importe quel adulte qui commence le judo adulte a sûrement remarqué ça. J'ai de la force, je veux faire mon serenage, je veux tourner mais je n'y arrive pas. Mon bras ou celui de l'autre me gêne, j'essaye de le retirer mais il bouge pas. C'est assez fréquent.
And you're like, I pull them, they don't move, right? So this is pretty common.
So if we have bad habits, because that happens a lot.
Donc si on a de mauvaises habitudes, on doit retourner aux uchikomi, aux étapes 1, 2, 3, doucement, des milliers de fois pour prendre les bonnes habitudes, c'est ça? Oui, mais tu peux aussi essayer. Je pense qu'il y a différentes façons. Les uchikomi, c'est pour apprendre le mouvement. Mais parfois, tu peux avoir le plus beau mouvement dans les uchikomi quand ça bouge et que tu essayes de le faire. Il n'y a plus rien. Ça arrive moins pour ceux qui commencent très jeunes dans un pays où le niveau est très haut parce qu'au moment où tu arrives adolescent, c'est devenu naturel. Et d'ailleurs, quand ces gens-là deviennent professeurs, ils disent « Mais c'est naturel, qu'est-ce que tu veux dire par ne pas pouvoir tourner? Juste tourne, juste tire. » Et moi, je suis « Mais comment? Non !» Je ne peux pas juste tourner, je suis bloqué, mon bras est derrière. C'est très fréquent et je pense que répéter les étapes 1, 2, 3 peut ne pas suffire. Parfois, tu dois trouver une autre façon de travailler, t'obliger à chercher. Te relâcher et juste le faire. Et si tu as de bons judokas avec qui tu peux faire randori et qui te laisseront tourner, tu vas pouvoir ressentir que quand tu te relâches et que tu tournes, c'est en fait possible. Et puis tu vas le faire avec quelqu'un d'autre et ça ne va peut-être pas marcher. Alors tu répètes encore et encore pour le faire. Mais si tu es tellement habitué à utiliser la force pour juste projeter quelqu'un de plus petit, alors c'est presque impossible à corriger. Donc c'est vraiment important que tu trouves ce qui est juste pour toi, la bonne façon pour toi de travailler. Encore une question, est-ce que tu penses que c'est important de varier les exercices? Parce que Jigoro Kano disait, voilà, uchikomi, randori, pikata, bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir beaucoup d'exercices différents pour mieux apprendre? Ou est-ce qu'on devrait juste faire uchikomi, randori? Par exemple, ici, on n'a pas fait beaucoup de nagekomi en statique ou en déplacement, kakarigeko, yaksukugeiko. Tu penses que c'est important de faire ce type d'exercice?
Do you think it's important to have this kind of exercise or it's not
necessary because anyway, Uchiko Miranda is the way to learn judo.
No, I think it's
je pense que n'importe quel exercice qui fonctionne pour toi, c'est bien. Tout le monde apprend différemment, donc ça, c'est comme un canevas. Mais sur ce canevas, ajouter des choses différentes, bien sûr, c'est bien.
I mean, cross-training, anything is also good, I think, because
je pense que tous les croisements, les mélanges sont bons parce que tu peux essayer. Pour les débutants, ne mélange pas trop de choses parce que c'est trop perturbant, surtout en tachiwaza. Juste apprendre où mettre mon bras et ensuite tourner correctement, c'est déjà assez difficile. Avoir la bonne distance, ça a l'air bien plus facile que ça ne l'est, même quand le partenaire ne bouge pas. Et en yakusoku geiko, quand le partenaire bouge mais tu sais ce qu'il fait, même comme ça, tu ne peux pas le faire parfaitement, c'est déjà assez difficile.
Right, it's already hard enough. So before you achieve some level, I think it's good to stick to.
Donc avant d'atteindre un certain niveau, c'est bon de se tenir à un certain canevas et de le répéter encore et encore, de façon à ce que ça devienne familier. Et ça n'a pas été si long. Peut-être 2 ou 3 ans, le temps que tu aies des techniques et que tu commences à mettre tous les morceaux ensemble. Et là, tu peux faire sens de commencer à mixer les exercices et essayer différentes choses.
One last question.
Sure.
Une dernière question. Avec ta vie assez incroyable où tu as commencé un loisir, puis tu as arrêté, puis repris en équipe nationale de Hong Kong, et puis tu es là aujourd'hui, c'est quoi le judo pour toi maintenant? Est-ce que c'est un loisir, un sport, quelque chose de plus dans ta vie, un peu philosophique? J'ai toujours dit que le judo, c'était la vie. Quand j'ai commencé très jeune, j'aimais ça. Mais ensuite, au collège et au lycée, je détestais ça. Je voulais vraiment faire du basket. Je détestais aller à l'entraînement. Mais parce que la majorité des gens n'avaient pas fait beaucoup de judo enfant, ils me voulaient vraiment dans l'équipe de l'école pour marquer des points. Je faisais donc du judo parce que je devais, parce que j'étais ceinture marron quand tous les autres étaient ceinture blanche. Mais moi, je voulais vraiment faire du basket et je suis devenue l'enfant à problème. Oh, c'est elle, est-ce qu'elle va encore manquer l'entraînement? Donc j'étais celle qui créait des problèmes. Et parce que je détestais vraiment ça, j'ai arrêté ensuite. Je ne voulais plus en faire.
But after a while, and then you'll be like, oh, this is really interesting. You start watching the competition. Because by that time, there are more competition you can watch online.
Mais dans les années qui ont suivi, on a pu voir plus de compétitions ou vidéos en ligne, et je regardais ça, et j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais gâché du temps.
Because then I realized, there are many things when you start.
Parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles quand tu commences jeune, comme le tai sabaki, par exemple. Quand tu es plus vieux, ton corps ne bouge pas aussi vite que ton esprit. Parfois, tu peux voir le bon timing, mais tes jambes ne bougent pas.
The legs are not moving. So for me, I think it's part of my whole life.
Donc le judo fait partie de toute ma vie parce que ça m'a donné des difficultés, mais aussi beaucoup de joie.
And it's also a little bit of regret.
Et aussi des regrets parce que j'ai manqué 15 ans dans ma vingtaine, quand c'est l'âge où on peut tellement progresser.
But it's also never too late because if you look at the sensei here,
mais ce n'est jamais trop tard parce que si tu regardes les professeurs ici, 60 ans c'est jeune, ils prennent encore tous les escaliers.
I think there are still many, even in my 40s, I still have at least 40 years.
Donc je pense qu'il y a tant à faire encore. J'ai 40 ans et à 40 ans tu peux apprendre tant encore. Et chacun son propre voyage. Alors oui, les Jeux Olympiques ce n'est plus possible, mais tu peux encore t'améliorer, apprendre une technique, avoir un meilleur niveau,
better level, better understanding,
une meilleure compréhension. Il y a beaucoup d'éléments que tu peux regarder et te dire, oh, en fait, j'utilisais la force, comment je peux apprendre et devenir quelqu'un de technique, donc. Je pense que c'est un peu comme un défi. Et comment tu enseignes aussi? Si tu enseignes à quelqu'un qui est là pour s'amuser ou si tu enseignes à l'équipe nationale, peux-tu leur donner quelque chose qui va les aider? Tu peux ne pas les battre, évidemment. Tu n'as plus 20 ans, mais tu peux peut-être apprendre des choses, peu importe où, qui vont leur être utiles. Et même si je ne peux pas les faire moi-même, s'ils peuvent le prendre et être meilleurs grâce à ça, c'est parfait pour tout le monde. Donc tu penses qu'on peut encore progresser après 40 ans?
Non,
même dans la vitesse, par exemple, tu as besoin d'être rapide au judo.
because judo you need speed.
Well, you might not be able to improve speed. I think to improve speed you need to target it.
Peut-être que tu ne vas pas améliorer ta vitesse. Pour l'améliorer, tu dois cibler ça. Donc tu dois faire tous ces exercices un peu fous que font les équipes nationales, mais tu peux être meilleur que ce que tu es maintenant. Tu ne peux pas être meilleur que lorsque tu avais 20 ans.
But to be better in judo, right? I think definitely.
Mais pour être meilleur en judo après 40 ans, définitivement. D'abord, la plupart d'entre nous ne sommes pas champions du monde. Donc même sur ta technique favorite, il y a tant à apprendre sur comment la passer. À moins que tu sois vraiment un maître sur cette technique, alors prends-en une autre. Donc oui, je pense que tu peux toujours faire des progrès. Peut-être que les progrès ne seront pas très rapides parce que j'ai manqué ma vingtaine, cette décennie en or, mais en faisant uchikomi tous les jours, c'est comme si rien ne se passe les premiers mois, mais quand tu regardes un an plus tard, tu réalises que tu peux le faire vraiment mieux. C'est comme ça, tu ne ressens pas les progrès, mais tu dois garder confiance, continuer à travailler et ça va devenir mieux.
So if you ask me, did I improve my judo compared to my 30s? I think so.
Donc à la question de savoir si j'ai amélioré mon judo depuis mes 30 ans, je dirais oui. Quand je suis revenue à Hong Kong, tout ce que je voulais faire était international et je trouvais que mon niveau n'était pas assez bon. Tu as besoin d'apprendre le kumikata, le newaza et à cette époque, quand je travaillais, je n'avais pas l'impression de progresser. Mais aujourd'hui, quand je regarde mes vidéos, je vois qu'en fait, oui, je suis meilleure. Je n'ai pas encore un très haut niveau, mais comparé à avant, je suis meilleure. Donc oui, tu peux progresser dans ta quarantaine, ta cinquantaine, soixantaine, aussi longtemps que tu peux bouger et garder un corps en bonne santé, tu peux progresser. Ça, c'est un super beau mot de la fin. Alors merci beaucoup, Nikki. Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles s'il vous plaît, ce serait vraiment top parce que c'est comme ça que le podcast peut remonter dans l'algorithme et être proposé à d'autres judokas. Alors, soyons dans le partage, merci pour eux et puis merci un peu beaucoup pour moi parce que c'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des satisfaits au bout du fil. Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site, YouTube, Facebook, Instagram, je suis un peu partout mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.